ma collègue m'a très bien présenté, donc je vais pas en rajouter. Je suis donc enseignante à Paris 10 Nanterre, dans le département sociologie, et je suis chercheure à l'UMR LAVU, qui est un UMR qui rassemble à la fois des géographes, des urbanistes, des aménageurs et des sociologues et des anthropologues. Même si on est minoritaire, on est très. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler un peu de mes différentes pratiques, dont des réflexions sur l'usage de la photo, alors en sociologie, mais ça peut être valable pour les sciences humaines en général et même la géographie urbaine, par exemple, puisque cela entraîne une réflexion sur l'espace, le rapport à l'espace, habité, non habité et la ville plus largement. J'ai été d'ailleurs d'abord une quinzaine d'années dans, je faisais partie du laboratoire d'anthropologie urbaine qui s'intéressait à l'ethnologie dans la ville. Et avec quelqu'un qui s'appelle Colette Pétonnet, qui était une des premières à intégrer, à insérer la discipline de l'ethnologie urbaine dans le vaste champ de l'anthropologie. Donc j'ai commencé mes travaux dans cette perspective d'anthropologie, c'est-à-dire de l'étude de micro-milieux dans un espace assez bien délimité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a un mouvement d'évolution vers de nouvelles techniques, parce que là, je parle de terrain pour commencer avec Emmanuel Loger de la place de la Réunion, qui date de la fin des années 90. Et à la suite de ces terrains, il y a eu une véritable évolution vers les nouvelles techniques. Et dans ce mouvement d'évolution, les habitants d'un quartier populaire sont susceptibles de devenir des acteurs dans la captation d'images qui valorisent la ville et leur quartier d'immigration. Et ainsi, ils participent par exemple à un certain nombre de mises en scène de l'altérité locale. Alors donc, c'est un terrain très local, hein, pour commencer. On verra après comment il a abouti à des réflexions sur la recherche participative de manière plus globale. Alors, mes premiers travaux après l'expérience de photographe pour des agences de presse étaient ceci, les Mal logés de la place de la Réunion, où j'avais vraiment la position de photographe sur le terrain, analysant les réalités sociales avec le regard d'une sociologue. Ça veut dire concrètement ajouter des méthodes scientifiques à la prise de vue. Ça veut dire réaliser des entretiens, observer. Je profite comme un public étudiant, hein, je rajoute un petit peu sur les modalités que je ne ferai peut-être pas d'habitude dans l'exposé, mais là je rajoute un petit peu quelques éléments pour la bonne écoute de l'exposé. Donc des entretiens, de l'observation avec la tenue d'un carnet de terrain dans lequel on note toutes ces observations, et la prise de vue que j'ai considérée comme un véritable outil d'investigation. C'est-à-dire que vous avez déjà dû voir de nombreuses recherches en sciences humaines, on utilise souvent l'image photo comme une simple illustration, pour faire joli si vous voulez, hein. On la met à côté du texte et c'est vrai que ça rend le texte attractif. C'est plus agréable d'avoir un pavé de rapport de recherche avec des images que sans. Alors on en ajoute. Pourquoi pas, je dis souvent aux étudiants, pourquoi pas? Mais c'est très dommage de ne pas aller plus loin. Et par exemple, de l'utiliser vraiment comme une méthode. Une méthode où le chercheur photographe va imposer, pas imposer, non, va intégrer ses prises de vue à l'appréhension des réalités sociales observées. Alors, les méthodes qualitatives en sciences humaines, et je ne sais pas en géographie, mais je pense que c'est pareil, placent l'observation au centre de l'enquête. C'est-à-dire qu'elles interrogent presque systématiquement la place du chercheur et favorise l'analyse réflexive. L'analyse réflexive, hein, c'est on s'auto-analyse sur le terrain, comment on se positionne, quelle place on a par rapport au sujet qu'on observe. Donc la connaissance de l'autre est une connaissance par l'écoute, mais peut-être plus encore par le regard, comme disait François Laplantine, qui est un anthropologue très connu. Lorsque le chercheur, par un double regard, le sien et celui des personnes du terrain, intègre à sa méthode des prises de vue, il a cette capacité d'ajouter au statut d'observateur une expérience de partage spécifique avec les sujets observés. Alors, c'est l'idée d'une approche participative. Cette approche correspond à un courant de recherche développé à l'origine au Canada et plus particulièrement en sciences de l'éducation dans les années 90. Elle représente une des grandes familles de la recherche participative par l'implication des acteurs, donc des gens qu'on observe, dans le processus de la recherche. Et surtout, dans le processus de production des connaissances et des données. Alors, vous allez voir, je vais vous donner un exemple concret avec cette recherche. Il s'agit donc de faire participer les enquêtés en tant que guide, accompagnateur, conseiller durant le processus de captation des images. Alors, je vais vous présenter, j'avais prévu trois expériences, mais je vais déjà en présenter deux, et on verra si on a le temps pour la troisième, mais peut-être qu'on réservera plutôt du temps pour les questions, ça me paraît peut-être mieux. Donc, une de ces expériences, comme les mal logés de la place de la Réunion, ont mis en avant le choix de l'observation participante. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur photographe, j'ai participé, alors je vous donne quand même le contexte, ce sont des habitants d'un quartier populaire de Paris qui depuis a beaucoup changé. On le voit dans cette image par exemple, qui est dans le 20e arrondissement et qui était en voie de transformation, de changement social profond, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la gentrification, c'est-à-dire l'arrivée de classes moyennes et privilégiées dans un quartier qui n'était pas du tout. Et cette arrivée perturbe considérablement les modes de vie et les modes d'habiter dans le quartier. Donc, j'étudiais les mal logés, mais en fait, c'était beaucoup plus vaste comme sujet qu'on peut imaginer, parce que les mal logés, ce n'est qu'une appellation administrative. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Parce qu'on peut considérer quelqu'un qui est... voilà, je caricature un peu, hein, ne prenez pas au premier degré ce que je dis, mais quelqu'un, comme je connaissais sur le terrain, qui habite une petite chambre d'un hôtel meublé parce qu'il a des problèmes d'ordre psychiatrique ou alcoolique et qu'il n'a pas pu subvenir à sa propre manière de vivre, et il a été placé dans cet hôtel. Bon, bah, lui, c'est son monde, et il ne veut absolument pas. Il va vivre très très mal si on l'expulse de cet hôtel. Et donc, c'est pour ça que la notion de mal logé est très relative, parce qu'on peut trouver quelqu'un mal logé, nous, quelqu'un qui ne ressentira pas lui-même. Donc, ça englobe, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas le sujet de mon exposé ici, mais ça englobe des sans domicile fixe, des gens en hôtel meublé, des personnes d'origine immigrée sans papier, ou avec papier, mais qui sont dans des immeubles insalubres, et j'en oublie peut-être, des militants d'un comité de défense de mal logés, j'y arrive, etc. Et donc, j'étais tout le temps dans le quartier à fréquenter tous ces gens, les réunions du comité de défense, et à les suivre dans toutes les manifestations de leur demande, de leur revendication, si vous voulez, d'avoir un meilleur logement. Donc, je les suivais dans les occupations de ministère, dans les manifestations, dans je ne sais quoi, dans les réquisitions d'immeubles vides aussi. pour montrer qu'il y avait de la place dans le parc public de l'office HLM, ils réquisitionnaient des espaces vides, comme on voit. Alors là, là, ce que je vous ai montré depuis ces trois diapos, c'est ce qu'ils appelaient, eux, le terrain d'aventure, qui est en fait un terrain vague investi par les enfants et qui, bien sûr, allait faire l'objet de construction d'immeubles. Un militant du comité, donc j'étais très en relation avec ces militants. Rapidement, au départ, ils ne me faisaient absolument pas confiance. Ils pensaient que j'étais peut-être une instance sociale à qui ils ne faisaient absolument pas confiance, ou quelqu'un de la police. Et donc, il a fallu la photo pour que j'ai un lien avec, avec eux, que je revienne sur le terrain et que je leur donne des images de ce que j'avais pu prendre, pour petit à petit avoir non seulement un lien de confiance, mais une véritable entente, une véritable solidarité entre eux et moi. J'ai appelé ça dans un article la sociologie militante. C'est mon seul terrain où j'ai fait cela, mais j'estimais qu'à suivre toutes leurs actions, peut-être que je commençais à prendre part un peu trop, on en discutera peut-être après, mais de leurs activités. Donc là, voilà, réquisition d'immeubles vides. On voit cette famille malienne qui vient, qui investit les lieux, qui paye le loyer après à l'office HLM pour montrer qu'elle veut payer, qu'elle peut payer, et en espérant qu'elle ne fera pas l'objet d'une expulsion due à un investissement dans l'appartement illégal. Donc voilà aussi la réquisition d'immeubles. Donc, on est là dans l'étude aussi spatiale, puisque c'est un quartier, comme je disais, en profonde mutation. Et on le voit, par exemple, là, c'est une intervention policière qui a muré le centre, le siège social du comité de défense. Et là, le quartier qui commence à subir des démolitions d'une usine là, de chocolat avec cette personne qui en est témoin, probablement son domicile fixe. Donc sur ce terrain, la photo était placée au centre de tous les échanges avec le comité de défense, avec les individus, et j'ai pu vraiment faire un travail qui était peut-être plus proche du travail de photographe reporter que ce que j'allais faire par la suite. Vous me direz s'il y a des questions sur ce travail. Alors, Belleville Café, on va. Donc là, c'est l'occupation de la place suite l'intervention policière. Et la place sur laquelle il s'installe avec des tentes Emmaüs. Bon, c'est un sujet ancien, mais toujours actuel, me semble-t-il. Là, maintenant, c'est le droit au logement, c'est le DAL qui refait ses modes d'action politique. Et malheureusement, le problème du logement n'est pas résolu à Paris, loin de là. Alors, je vais passer à tout à fait un autre cadre, beaucoup plus récent, puisqu'il date de 2016. Fin des années 90. Alors, la deuxième expérience, c'est une recherche donc de 2014 à 2016, une recherche collective européenne. Alors là, on est tout à fait dans un autre cadre. Là, pour les étudiants, je le situe. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas si âgée que ça, il ne faut pas croire, mais il n'empêche que j'ai connu des cadres de recherche qui ont changé. C'est-à-dire que dans les années 90, on travaillait encore beaucoup seul avec ces sujets, comme on fait dans vos études ou quand on fait en thèse de doctorat. C'est encore le cas. Mais en tant que chercheur, actuellement, on travaille souvent dans des équipes. Donc là, c'était une équipe de 12 chercheurs répartis sur quatre villes européennes, Lisbonne, Bruxelles, Paris et Vienne. Et cette équipe était dirigée par deux sociologues, Yankel Filiakov, là je vous mettrai le nom tout à l'heure, et Claire Lévy-Roland. Alors, dans le cadre de cette recherche qui portait sur les résistances ordinaires de quartiers populaires. Les quartiers populaires, c'était donc des quartiers de ces quatre capitales. C'est-à-dire, j'aurais dû vous les écrire, mais bon, je vous donnerai l'orthographe tout à l'heure si ça vous intéresse. C'est-à-dire la Goutte d'Or à Paris, ça tout le monde connaît. Paris 18e, la Mouraria à Lisbonne, le quartier de Volkert, V-O-L-K-E-R-T, à Vienne, qui est un quartier avec une immigration turque assez forte, qui est assez rare dans la ville de Vienne. Et le dernier quartier, c'est Evert à Bruxelles. H-E-A-V-E-R-T. Alors, à l'origine, c'est un travail sur la notion de résistance donc, des quartiers, c'est-à-dire la résistance des personnes habitantes à rester dans le quartier populaire qu'elles habitent depuis longtemps. Donc un quartier en voie de transformation, de quelle manière elles résistent dans leur mode de vie et dans leur implication dans le quartier. Alors pourquoi ces quartiers? C'est parce qu'ils étaient comparables. C'est-à-dire que c'est des quartiers aux populations hétérogènes, qui attire récemment de nouveaux habitants issus de classes moyennes, des touristes, appréciant l'histoire, le multiculturalisme et la centralité de ces quartiers. Hein, c'est le cas de la Goutte d'Or, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de touristes, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est un laboratoire de sociologues et de géographes, la Goutte d'Or. Hein, tout le monde est attiré par ce quartier pour ses caractéristiques-là. Et donc... Donc, ils sont tous en voie de transformation. C'est pour ça que je fais un petit parallèle avec les mal logés de la place des Réunions que j'ai étudié avant. Et ils sont tous en voie de gentrification. Donc, comment ça se passe? Pour beaucoup, ils sont des lieux d'accueil de vagues migratoires aussi. Et pour beaucoup des interviewés, cette recomposition sociale risque de bousculer l'identité spatiale et sociale des quartiers. C'est une peur qu'ils ont dans leur façon de témoigner de leur réalité. Alors donc j'ai dit qu'il y avait 12 collègues, à la fois des géographes et des sociologues, et qui ont réalisé, si je me souviens bien, plus de 200 interviews en tout cas, 212 je crois, dans le quartier, enfin dans chaque quartier, des équipes par ville. Et moi, j'avais la chance d'intervenir sur chaque ville. J'étais la seule à venir investir chaque quartier. Pourquoi? Parce que moi, j'avais comme rôle, j'avais un rôle de photographe, en fait, mais de sociologue aussi, vous allez voir pourquoi. J'avais un rôle de collecter des impressions du visible dans le quartier qui correspondent au vécu subjectif des habitants. Alors, ça veut dire concrètement que on s'intéresse aux lieux de mémoire individuelle ou collective et on réalise des entretiens. Non, non, c'est normal. C'est mon ordinateur. Oui, ça consistait en des balades urbaines, comme on les a apprises, on les a nommées, pardon, c'est-à-dire des accompagnements des habitants dans leur ville alors qu'ils me montraient ce qui était à photographier pour montrer ce qu'ils aimaient du quartier ou ce qu'ils n'aimaient pas. Et évidemment, ça suscitait, ça développait un certain type de discours sur leurs souvenirs, sur leur manière de vivre le quartier, etc. Et ce travail a fait l'objet d'une exposition sur la recherche, qui était une exposition itinérante. Elle est partie de l'école Val-de-Seine, l'école d'architecture, et elle a circulé dans quelques points en Europe et puis en France. Voilà, ça c'était un peu le but. Et le but, c'était de montrer comment la photo valorisait un travail, mais en profondeur. C'est-à-dire pas seulement dans un rapport ou simplement en projetant quelques images, etc. Là, ça devenait vraiment le matériau de recherche de la perspective. Alors, on peut parler de photographie participative. Et je suis partie de cette idée des... Je pense que mes collègues doivent très bien connaître ça. Les idées des cartes mentales de Kevin Lynch, qui consistaient à... Alors ça, c'est une représentation humoristique, mais qui consistait à demander à des habitants de dessiner leur quartier, de faire un plan. Alors, je caricature un peu, hein, je vais vite, mais en tout cas, ça donnait des résultats comme ça, très différents et très intéressant d'une personne à une autre pour montrer, alors l'un met un vélo, l'autre met une porte, l'autre essaye de faire une carte, on a l'habitude de voir une carte très lissée, quoi, très... Et puis d'autres y intégrer des choses vraiment de la vie quotidienne. Alors, je suis partie un peu de cette idée pour explorer la balade urbaine. Donc, voilà la photo participative, consiste en la mise en place d'une étroite collaboration. Hein. Voilà, il s'agit de tracer une trajectoire dans le quartier à travers des lieux habités, les lieux fréquentés, les lieux à trajectoire de vie, l'enquêter, les lieux rêvés ou projetés, parce que l'imaginaire aussi est important. Les lieux d'une scène racontée par l'enquêté. Les lieux repoussoirs qui ne plaisent pas, les lieux reconnus. Enfin, vous voyez, il y a pléthore de catégories de lieux qu'on peut mettre en valeur grâce à ce travail photographique. Ben, voilà l'exemple. Et après, je vous passerai un diaporama dans le temps qui me restera. Voilà un exemple de trajectoire qui, je vous le dis tout de suite, a été pris en noir et blanc parce que c'est la première et que moi, je travaille beaucoup en noir et blanc. Mais rapidement, je me suis rendu compte que le noir et blanc n'avait pas de sens dans cette recherche. Il fallait vraiment montrer aussi la manière dont les gens perçoivent leur espace en couleur. C'est en couleur qu'ils le perçoivent. Donc, tout le reste du travail, je l'ai fait en couleur. Alors là, il n'y a pas les commentaires. Bon, je vais vous passer le diaporama parce que là, il n'y a pas les commentaires. Ouais, je vais vous passer le diaporama, ça sera mieux. Je cherche plein écran. Bon, je vais vous passer comme ça, tant pis. Si vous voyez quand même là. Alors, le son n'est pas très bon. C'est un monteur qui a fait... le montage avec mes conseils, bien sûr, avec mes demandes. Mais j'avais demandé de mettre un son de ville, une ambiance. Alors, on entend un peu un brouhaha, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais bon. Donc, ça commence toujours par une présentation de la personne, c'est Nicole. la légende et un portrait. Et après commence la balade urbaine, sachant que, alors c'est un peu le biais, j'ai sélectionné qu'un certain nombre de photos qui est beaucoup moins important que ce que j'ai réalisé vraiment. Alors, ce dispositif tournait en boucle dans l'exposition. On entend beaucoup les oiseaux. C'est pas que les oiseaux soient. Les oiseaux sont présents dans la ville, c'est sûr, mais là, on les entend. C'est un peu exagéré. Oui, je vais vous passer aussi celui-là, puis après, je vous passerai un peu de Lisbonne. Alors, le grand entretien qui était réalisé par mes collègues était complété par un entretien pendant la balade. J'avais un enregistreur et ces commentaires sont issus de ces enregistrements. Là, vous connaissez peut-être, c'était l'ancienne mosquée qui était là. Ils vont en construire une nouvelle. Oui, c'est révélateur de ses connaissances dans le quartier, point de vue historique, etc., comment elle est implantée dans le quartier. Mais aussi de ses pratiques avec le journal, le jardin bio, etc. Alors je vais essayer de passer un peu de. J'ai encore 3 minutes là, je crois. Alors, je peux t'arrêter là, non? Sinon, il y a un oui, hein, parce que ça donne une idée, parce qu'après, il y a Vienne et Bruxelles, mais ça nous va nous mener trop tard. Et si, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas. Mais... Sinon, je repasserai d'autres.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Et pour les ouverts pour les questions, n'hésitez pas. On va faire un temps de questions par présentation et faire un temps de questions collectives. Mais là, c'est si vous avez des questions là spécifiquement pour ces travaux, n'hésitez pas.
C'est une petite question. Petite question sur le lien, excusez-moi, mais comme je ne l'ai pas vu le début, j'ai peut-être manqué un élément d'explication, mais entre les cartes mentales qui ont été faites et puis la promenade urbaine avec la photographie accompagnant le vécu, le ressenti des habitants, est-ce qu'il y a un lien qui a été fait dans le travail de l'équipe?
Non, pas dans le travail de cette équipe, c'est moi qui ai fait un lien, mais pas vraiment un lien direct. C'était pour parler de la participation, en fait.
D'accord.
L'aspect participatif. Et aussi l'autre aspect concernant la manière de se projeter sur les lieux. On projette beaucoup de soi-même dans la perception des lieux. Et donc, j'ai retravaillé cela autrement avec la photo, etc. Mais c'est vrai que sinon, la technique que j'ai employée n'est pas directement issue de la technique de Lynch.
D'accord,
c'est juste l'idée... C'est l'idée que c'est surtout l'idée qu'on puisse se réinterpréter un lieu selon sa propre perception et personnalité sociale.
Je m'interrogeais sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à laisser les habitants faire leur représentation à travers la carte et parallèlement, même à un autre moment, faire la promenade et avec l'accompagnement des photos que vous faites. Et de voir si quelle correspondance il peut y avoir avec l'expression qu'elle peut.
Ça serait très bien en effet, ouais. Oui, ça serait très intéressant. Ouais. Là, ce n'était pas dans le programme, mais je pense que ça peut être deux techniques complètement complémentaires. Ouais.
Et pour aller dans le même sens, mais la question que j'avais, c'est pourquoi ne pas avoir demandé aussi aux personnes enquêtées de faire des photos pour avoir deux corpus.
Alors, ça aurait été possible. Alors, il y avait un problème. On a toujours des problèmes logistiques dans les recherches. Hein. On a un problème de temps. On n'était pas longtemps. C'était quand même des villes éloignées de nos résidences personnelles. Ouais. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps sur le terrain. Donc, il aurait fallu monter un atelier dans ce cas-là pour faire de la photo participative. Et ça aurait été aussi très intéressant de monter un atelier avec les habitants, comme fait Hortense Toichet, par exemple, avec des femmes gitanes. Et de leur faire faire des images sur leur quartier ou autre. Mais ce n'était pas un contexte de recherche qui permettait la création d'un atelier qui aurait pu vivre, mais sur plusieurs semaines. On ne pouvait pas le faire en une semaine, quoi. C'est pas possible. Et du coup, leur donner un appareil comme ça, même un appareil jetable, j'en sais rien, mais de but en blanc, alors qu'on savait que ça allait être un travail d'exposition. Je ne pense pas qu'on aurait eu la qualité suffisante pour ensuite une exposition. Il aurait fallu cette sorte, pas d'initiation, mais d'encadrement, un peu d'accompagnement plutôt. D'accompagnement avec eux par la suite. Il me semble. Hein.
Ou l'utiliser comme corpus d'images, mais pour la recherche, quoi, pas forcément de l'exposer. Ou comme vecteur de discussion, après, que eux expliquent pourquoi ils ont fait. Pourquoi dans leur cadrage il y a tellement d'éléments?
Oui, c'est ça, ouais. Ça aussi, on leur montre les photos. C'est l'avantage du numérique, hein, c'est qu'on peut les montrer tout de suite.
Ouais.
Donc, pas avec tous, parce que tous n'ont pas été d'accord, mais la plupart, on s'est installé dans un café, puis je leur ai montré les photos, puis j'ai pris des notes. Et, on s'est même pratiquement accordé sur quelles photos pourraient être exposées. Par exemple.
Les photos d'entretien, quelles sont les problématiques en fait de la discussion autour des photographies?
Eh bien, le thème de. Enfin, c'est. Comment dire? Puisque c'est sur la résistance ordinaire dans les quartiers populaires, c'est s'intéresser à leur attachement au quartier et à leur manière de le vivre au quotidien, en fait. Donc, on va avoir des questions qui portent.
ces entretiens mènent à des reprises de vue sur le terrain ?
Non. Non, parce qu'il y a déjà eu un entretien avant. Le deuxième entretien qu'on a avec eux. Et oui, comment dire, on les interroge à partir des photos qui ont été réalisées. Donc on leur montre les photos. C'est la photo elicitation, quoi. On leur montre et à partir de ça, on les laisse parler librement, sans trop poser de questions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problématique imposée en fait. Non. Que c'est eux qui ont choisi complètement leur cadre. Alors, leur cadre, c'est beaucoup dire. Parce que là où vous avez raison dans vos questions, c'est qu'à partir du moment où c'est moi qui tiens l'appareil, il y a la part subjective du photographe. C'est pour ça que ce n'est pas présenté dans l'exposition comme des photos des habitants ou des photos commanditées par l'habitant. C'est présenté comme mes photos. Mes photos qui ont été faites en fonction de ce que j'ai entendu. Que j'ai bien voulu montrer de ce que j'ai entendu. Donc après, on est d'accord ou pas sur le principe, mais c'était un essai de faire. C'est la première fois que je faisais ça. Non, je me suis dit,
on peut demander comme ça les habitants, de donner à voir ce qu'il y aurait à faire en interactif, de donner à voir aussi qui ils sont, et il y a plusieurs possibles, que ce soit leur donner un appareil photo et puis on donne sans limite l'occasion de photographier leur quartier. On peut aussi leur demander de faire simplement 5 ou 10 photos pour faire un petit peu de leur quartier. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Pour mettre en place.
Il y avait une question aussi par rapport à la question de la réciprocité. Parce que c'est une question que beaucoup de chercheurs se posent au moment où on fait du terrain. Bien qu'en fait, on vient sur place, on pose des questions, on sollicite du temps. Et en fait, à part quand on est dans des processus de recherche-action, finalement, on ne rend pas toujours grand-chose, puisqu'en fait, c'est des choses après qui vont circuler dans les recherches, dans d'autres lieux. Et donc, je me disais qu'en fait, la photo, ça pouvait être un support en fait, de réciprocité, quand c'est très bien, en tout cas, dans le premier. De la temporalité qui se passait et aussi en fait de leur donner des supports. Et voilà, je me demandais ce qu'il en était peut-être pour les projets suivants sur les 4 quartiers. Est-ce que finalement, du côté des habitants qui étaient interrogés, il y avait une sorte d'intérêt en fait à ensuite eux, soit avoir des images, soit avoir été à un moment médiatisé comme acteur de leur quartier. Enfin, voilà. Est-ce que ça facilitait aussi le fait de solliciter du temps et de travailler avec ces acteurs? Est-ce que ça les transforme?
Alors c'est très différent, là où vous avez raison, c'est très différent d'un terrain à un autre, des mal logés, de toute façon c'est des perspectives, une très anthropologique, l'autre plutôt socio-géographique, c'est pas du tout pareil. Mais c'est vrai que moi je travaille souvent en lien de réciprocité, je mets ce lien au centre de mes articles souvent, ce que j'appelle les rapports entre sujet photographiant et sujet photographié, qui doivent être le plus rapprochés possible et le plus réciproque possible. Là, pour ce travail-là, c'est vrai que ce n'est pas un bon exemple pour ça. Il y avait quand même, ce lien existait quand même pour ceux qui le souhaitaient. C'est-à-dire tout simplement, ils pouvaient venir voir l'exposition ou voir, par exemple, ceux de Lisbonne, l'expo devait aller à Lisbonne. Ils pouvaient demander à voir les photos aux chercheurs sur place. Alors certains l'ont fait, d'autres pas. Et par exemple, à Vienne, l'expo a été à Vienne, et Christian Wächter, là, qui était un des sujets répondant à l'enquête, est venu voir l'expo. Et il s'est vu en grand, en portrait, en grand, en face à face. On a fait une photo de lui à côté du portrait. Donc là, oui, c'est ça, ça me dit. Oui.
Alors, vous avez un peu parlé de pourquoi du temps du quartier, mais ce que je voulais savoir, c'était le choix de si celui-là était différemment ou si c'était un mal de
le choix des villes. Oui, c'est plutôt ça. C'est le choix des quartiers qui a déterminé le choix des villes, en fait. Et le choix déterminé par les chercheurs eux-mêmes. parce qu'on avait une équipe lisboète, enfin de Lisbonne, par exemple, qui était la mieux placée pour comprendre que la Moraria était le quartier le plus emblématique de la situation qu'on recherchait, de changement social, de gentrification, etc. Idem pour Vienne, on avait un collègue à Vienne qui est professeur de sociologie à l'Institut de sociologie, et lui-même connaissait cette petite place Folcart, il fallait connaître. Hein. On pouvait pas. Donc on est parti de la place et on arrive au fait que c'est la place dans une ville. Mais comme on n'étudiait pas la ville, hein, on étudiait vraiment que le quartier. Et Bruxelles, ça faisait l'objet d'une autre recherche, donc ça a permis de faire un lien entre les deux.
Et quel est le lien entre votre expérience de photojournaliste, si j'ai bien compris,
oui,
et votre méthode de prise de vue postale, en fait, appliquée à la sociologie ou intégrée à la sociologie?
Bah, il y a quand même une grande différence, c'est que la différence, elle est temporelle. C'est qu'en arrêtant le journalisme assez tôt, je peux dire que c'est simplement une des expériences. C'est même pas un métier dont j'ai vraiment vécu. J'ai essayé dans différentes agences pour voir un peu ce que ça donnait. Et ça n'a pas pu dès le début, parce qu'on était toujours pris par le temps. Les agences, même pour de la vie quotidienne, me demandaient d'aller sur place à certains jours et vite revenir. C'est l'époque des diapositives, hein, on ramenait vite les diapos, etc. Et on courait tout le temps après le temps. Et moi, qui avais déjà fait une licence de sociaux, je trouvais que c'était dommage de ne pas s'arrêter, étudier un peu plus les gens. Donc j'avais des réflexes, je les donnais en carnet de terrain, j'écrivais. Je donnais ça à un rédacteur qui écrivait les articles à la place. Et tout ça, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc après, pour répondre à votre question, dans la prise de vue, ça change les choses, oui, parce qu'on a le temps de rencontrer. Parce qu'en sociologie, on n'est pas obligé de faire que de la belle photo. On peut faire de la photo aussi, entre guillemets, banale. Est-ce qu'une photo banale, c'est encore un vaste sujet, mais une photo documentant le sujet qu'on est en train d'étudier, on est libre. On n'est pas là à chercher à vendre la photo. Et donc, ça apporte un rapport complètement différent au réel. Enfin, comme je l'ai vécu, hein, je ne généralise pas du tout le journaliste. Parce que maintenant, on a des journalistes très longues investigations. Bon, il y a des collègues qui prendront sûrement autrement les choses, mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait. De courir toujours après la photo qui pourrait être mieux vendue qu'une autre.
Et du coup, quand vous prenez les photos, c'est qu'on a vu, quel est le rapport à l'esthétique? Est-ce que c'est purement la personne dans la balade? Désigne ça, je prends l'appareil, je clique, ou est-ce qu'il y a une réflexion sur la manière de cadrer, le rendre la photo, puisqu'il y aura une exposition après, donc peut-être qu'il y a une réflexion sur sa qualité, quoi, de
réflexion, quoi. Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un binôme particulier, c'est-à-dire que je suis quand même la productrice de l'image, donc je vais apporter un certain soin à cette production. Mais c'est délibéré de ma part. Après, ça peut être critiquable. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport à l'écrit et à l'interview, on a une interview brute. Quand on retravaille dessus et qu'on y met des phrases introductives, etc., on retravaille aussi le matériau brut. Alors là, c'est pareil avec la photo. J'ai décidé de ne pas laisser la photo brute, de la travailler un peu pour exprimer au plus près de ce que la personne est en train de me dire. Mais c'était un challenge. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça exactement. Ouais.
Et quelle serait la différence, là, par exemple, de travailler dans ton caché, donc il vient plutôt d'une esthétique documentaire, donc travail plutôt inscrit dans le champ de l'art, entre le travail et le...
Alors ça, c'est une question méthodologie,
de temporalité.
Ils sont difficiles, je connais bien Hortense, donc ça nous arrive de travailler ensemble, même. J'aurais du mal à répondre à la question. C'est différent. Elle, c'est une véritable artiste. C'est son travail, elle en vit. Voilà, elle a, comment dire, cette orientation sociologique, c'est certain. elle en produit des œuvres artistiques. Mais par contre, ce qu'elle a fait sur ses, avec ses femmes gitanes, c'est tout à fait un projet que je pourrais imaginer mettre en place avec d'autres personnes. Parce que ça va en continuité de ce que je viens d'exposer là. Il faut plus de temps. Elle l'a fait sur un long moment. Vous connaissez un peu ce projet ?
Merci.